et par le baptême, nous accueillons et nous recevons le don d'une spensalité, d'une union de chair, de sang, d'âme et d'éternité avec l'Époux, Dieu le Père, notre Créateur et notre Dieu. Par le baptême, nous sommes introduits dans l'accueil, dans l'échange de l'accueil et du don, de la spensalité éternelle de Dieu. Nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu, avec une lumière intérieure incarnée, de chair, de sang, de cœur, d'âme, d'esprit, de corps et de vie divine, d'innocence, en affinité avec cette spensalité, avec ses épousailles, avec le chant des noces. Quand on se marie, on dit « je te reçois comme époux et épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement, pour le meilleur et pour le pire et jusqu'à la mort. » Alors un sacrement à ce moment-là, son Père, c'est ainsi que nous avons été créés par Dieu, dans une liberté de chair et d'innocence divine. Nous sommes image et ressemblance de Dieu, nous sommes en affinité avec Dieu dans la chair. Et par le baptême, nous sommes introduits dans la consommation de ce mariage, c'est un mariage avec celui que nous épousons. C'est mutuel, c'est indissoluble. C'est sponsal, comme on dit aujourd'hui. Hein. Nous sommes sponsalité. L'homme qui n'est pas sponsalité dès la conception n'est pas un être humain. Il n'est pas encore arrivé à ce qu'il est. Il n'a pas trouvé la véritable vie qu'il est lui-même à l'intérieur de sa liberté, de sa chair, de son sang. Et nous avons dit oui, et Dieu a dit oui. En un seul oui indissoluble, le royaume du oui, dans l'accueil et l'échange de l'accueil et du don est arrivé. Aujourd'hui, c'est l'évangile aussi, bien sûr. Voilà ce qu'il y a dans l'épître de Saint Paul aujourd'hui, d'un mariage. Dans la mort du Christ, dans le baptême, nous sommes liés indissolublement à une vie totalement nouvelle dans la mort de Jésus. Et la mort de Jésus et notre mort sont une seule et indissoluble mort ouverte à une vie totalement nouvelle qui est le mariage avec Dieu seul. La solitude, c'est ce qui structure profondément la signification sponsale de notre vie. Et puis l'évangile et la première lecture aussi. Eh bien, cet échange de l'accueil et du don. Il faut voir qui nous accueillons. L'accueil. Si tu accueilles un tout petit enfant dans son oui, si tu t'accueilles toi-même dans le oui, alors tu deviens un disciple. Si tu donnes un verre d'eau fraîche, c'est-à-dire si tu lui redonnes sa véritable nature à l'état de fraîcheur initiale, alors tu deviens un disciple. Si tu accueilles un enfant comme avec toi, un enfant et tous les enfants comme toi, alors tu deviens un disciple. Et la récompense éternelle sera surabondante, sans limite et sans fin. Celui qui accueille un petit, le plus petit. Mais si tu accueilles un juste, si tu accueilles Saint Joseph comme ton père, si tu accueilles la Sainte Famille, comme si tu accueilles dans cette responsabilité, dans cet royaume d'une vie totalement nouvelle, dans la mort et la résurrection du Christ, si tu accueilles la Sainte Famille glorieuse comme ta génération et ton principe bien plus que toute autre génération, celle d'Adam par exemple, ou celle de tes parents, si tu accueilles Saint-Joseph, tu obtiens la justice éternelle, l'ajustement parfait à Dieu et à tous les hommes. Mais dans la chair, dans le sang, dans le corps, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, et dans l'éternité, et dans la vie divine, et dans la sainteté. Si tu accueilles un prophète, si tu accueilles Jésus comme prophète, si tu m'accueilles comme prophète, alors tu auras une récompense de prophète. Tu auras la maîtrise du temps, tu auras la maîtrise de chaque instant présent, tu auras la maîtrise de l'ouverture des temps. Tu auras la maîtrise du cinquième sol de l'Apocalypse, de l'ouverture, de ce qui est en affinité avec le royaume de Dieu qui doit s'ouvrir dans la terre et comme dans le ciel. Mais si c'est moi que tu accueilles comme Dieu vivant, si c'est Dieu que tu accueilles, si c'est moi que tu accueilles comme Dieu vivant, si tu m'accueilles moi, voilà, oh, et la vie est totalement nouvelle dans ton baptême de la résurrection universelle. Si c'est moi que tu accueilles comme Dieu vivant, alors tu sais Dieu, le Père, celui qui m'envoie que tu accueilles. Ta mariage avec Dieu, le Père, pour prendre garde à celui qu'on accueille, en revenant à revisiter toutes les conceptions humaines et la nôtre, dans l'image, ressemblance de Dieu. Voilà ce pourquoi nous sommes disciples. L'Église, c'est l'épouse, mais c'est aussi la mère. Et elle engendre ce qu'elle est. Et quand nous rentrons comme ça dans la vie spirituelle, de manière incarnée dans la chair et le sang, la pureté, l'immaculation, l'indissolubilité, l'indivisibilité, l'invincibilité et la disparition totale de moindre, de toutes les formes, quelles qu'elles soient, même les plus petites, les plus minuscules du péché, même celle du péché par omission. Alors, nous sommes tout à fait nous-mêmes dans le baptême que nous avons reçu. Ouais. Quand nous recevons Jésus, quand nous accueillons l'Eucharistie, quand nous recevons le baptême, quand nous recevons dans l'oraison le baptême, à chaque fois qu'on fait oraison, on reçoit le baptême. On l'accueille. Mais si on accueille le baptême, si on accueille Dieu vivant dans ce baptême, dans la mort, dans la disparition totale, dans notre dormition, si on vit dans l'oraison, une dormition, une mort totale, parce qu'on est englouti dans la mort de Jésus, et que notre mort disparaît dans sa mort et sa mort dans la nôtre, dans une seule mort universelle, une seule affinité avec la vie totalement nouvelle, qui va faire jaillir dans l'oraison le baptême nouveau. Alors à ce moment-là, nous sommes transformés, et c'est Dieu qui opère la transformation, la supervenue du Saint-Esprit en nous. L'embrassement du Père, l'embrassement et l'étreinte de l'Époux, dans le Saint des Saints. Oui, notre Roi est dans Elohim, notre bouclier, Dieu Sabaoth, dans le Saint des Saints du Dieu d'Israël. C'est psaume 88. Nous sommes dans le Saint des Saints du Dieu d'Israël, du Dieu de l'Église qui s'en épousait et qui établit son royaume du ciel, qui vient se transporter dans la terre. Voilà, c'est le 13e dimanche du temps ordinaire. Bien, comme méditation, on va continuer pour la troisième fois à lire Saint-Irénée, puisque ce que le Saint-Esprit nous demande de dévorer, et ce que nous dévorons, nous l'accueillerons, et nous serons transformés. Et la parole se réalisera dans ce qu'elle signifie. Nous engageons avec le Saint-Père, le Saint-Esprit engage, le ciel et la terre engage, depuis presque 19 mois maintenant. Qu'on se nourrisse de la cinquième livre du livre Saint-Irénée, docteur de l'Église, c'est maintenant. Vois celui qui s'en nourrit en raison du pouvoir des clés de l'Église, qui ouvre dans le ciel ce qui doit se produire dans notre terre et dans notre terre, ce qui doit se ouvrir au ciel pour la descente de la grâce qui doit être la nôtre dans ces temps-ci. Celui qui s'en nourrira, les paroles dont il se nourrit, qu'il accueillera, transformeront et réaliseront ce qu'elle signifie. Alors c'est pour ça que nous le faisons. Non, on s'en lassera pas. C'est absolument extraordinaire. On peut pas se lasser de lire ça. C'est impossible de s'en lasser. Alors je vous lis chapitre 5, verset 35. Que après le royaume des justes, après la disparition de l'Antéchrist, qui sera jeté dans un seul instant devant nos yeux, à cause de l'Église de Dieu sur la terre, à cause des disciples réunis unanimement dans cette spensalité, corps, âme, chair et esprit, à cause de cela, à cause du royaume des justes, à cause du royaume de Dieu établi, de Jésus établi sur le temps de la terre, dans un temps qui durera bien des siècles, à cause de ça, après ce royaume, il y aura la Jérusalem d'en haut, qui apparaîtra, et après, le royaume du Père sera manifesté. Et après, il y aura le jugement dernier. Donc, on voit bien qu'il y a quatre moments d'après Saint-Irénée. Oui, je vais faire un peu la lecture maintenant. L'apôtre l'avait dit, la Jérusalem d'en haut, qui vient après le royaume des justes, elle est liberté, elle est libre et c'est elle qui est notre mère divine. Et l'apôtre ne dit pas cela de l'antimésis, d'un éon égaré, ni d'une puissance séparée du plérôme et dénommée Prunikos. Mais il parle bien de la Jérusalem qui a été inscrite et peinte dans les mains de Dieu. C'est de cette Jérusalem-là que sera l'image, la Jérusalem de la première terre, où les justes s'exerceront à l'incorruptibilité et se prépareront au salut final, éternel et définitif. Comme c'est aussi de ce tabernacle de Dieu avec les hommes que Moïse avait reçu le modèle sur la montagne. Car de même qu'est véritablement, réellement et concrètement Dieu, celui qui ressuscitera l'homme, c'est aussi réellement que l'homme ressuscitera d'entre les morts. Il ressuscitera réellement, pas du tout allégoriquement, et de même que l'homme ressuscitera réellement. Jésus parle de la première résurrection, mais aussi de la deuxième résurrection et de la dernière résurrection. De même qu'il ressuscitera réellement, ça c'est moi qui fais cette parenthèse, et de même qu'il ressuscitera réellement, c'est réellement aussi qu'il s'exercera dans le temps donc, à jamais à l'incorruptibilité, qu'il va grandir et croître dans cette incorruptibilité, qu'il parviendra à la plénitude de sa vigueur au temps du royaume de la terre, jusqu'à devenir capable, capax, d'accueillir la gloire du Père, le troisième moment avant le jugement dernier. Puis, quand toutes ces choses ont été entièrement renouvelées, c'est réellement qu'il habitera la cité de Dieu qui descendra du ciel sur la terre. Car, Saint Jean le dit, celui qui était assis sur le trône dira alors, « Voici, je crée toutes choses nouvelles. » Écris-le, parce que ses paroles sont sûres, certaines et véridiques. Et l'ayant dit, il dit, « C'est fait. » Chapitre 36 du cinquième livre. Et puisque rien n'est plus juste que ce que nous venons de dire, rien n'est plus juste, n'est plus ajusté à Dieu et aux hommes et à nous-mêmes, et à la grâce que nous recevons dans le baptême. Rien n'est plus juste de ce que nous venons de dire, puisque les hommes sont bien des êtres réels, et le transfert qui les affectera doit donc aussi être parfaitement réel, étant toutefois admis que par ce transfert, ils n'iront pas dans le vide et le néant. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la remarque, on appelle ça l'anatman, la non-substance, la bodéité. Mais ils progresseront, fermons la parenthèse, mais ils progresseront au contraire. La progression implique le temps n'est pas fini. Mais ils progresseront au contraire dans l'essai, dans l'être en acte, dans l'existence, dans l'être. Ils progresseront dans leur être, parce que ni la substance, ce qui est essentiel en nous, la substance, ce qui est substantiel en nous, ce qui nous fait subsister à l'intérieur de la crainte de Dieu en nous. Je ferme la parenthèse. Si ni la holousia, ni la matière de la création ne seront anéanties, véridiques et stables, en effet, est celui qui a établi cette création. Elles ne seront pas donc anéanties non plus, mais la figure de ce monde, c'est elle qui mourra et qui passera. C'est-à-dire les choses dans lesquelles a été accueillie la transgression. En hébreu, transgression, ça se dit, c'est koutsim. Parce que l'homme a trouvé, non pas sa jeunesse, mais sa vieillesse totale en cette transgression. Eh bien, c'est cette figure-là de ce monde qui va mourir. Celle qui a accueilli la transgression. Au temps du royaume, sur la terre, du ciel dans la terre. En effet, l'homme vivant en juste sur la terre oubliera de mourir en ces jours-là. Il oubliera de mourir. La mort n'aura sur lui aucun pouvoir. Et comme l'Écriture dit que tout a été soumis à l'homme vivant juste sur la terre, c'est-à-dire toute l'humanité, en une seule humanité, en un seul corps mystique vivant, Jésus vivant et entier, c'est moi qui ferme la parenthèse là. Lorsque l'Écriture dit que tout lui a été soumis à cet homme-là, Jésus vivant, entier, vivant dans ce royaume, il est clair que c'est tout lui a été soumis, sauf évidemment celui qui lui a soumis toutes choses. Et celui qui lui a soumis toutes choses, c'est le Père. Et bien, quand toutes choses lui auront été soumises, dans ce royaume, alors, Dieu le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, c'est-à-dire le Père, de sorte que Dieu soit tout en tous. Chapitre 36, troisième paragraphe. Des jours viennent où les morts qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme et le ressusciteront. Ainsi donc, de façon précise, Jean a vu par avance la première résurrection qui est celle des justes et l'héritage de la terre qui doit se réaliser dans le royaume. De leur côté, en plein accord avec saint Jean, les prophètes avaient déjà prophétisé sur cette résurrection. C'est exactement cela que le Seigneur a enseigné lui aussi quand il a promis de boire le mélange nouveau de la coupe avec ses disciples dans le royaume. Eh bien, il dit par là que lorsqu'il a dit « Des jours viennent où les morts qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme, ils ressusciteront ». Il dit par là que ceux qui auront fait le bien ressusciteront. Les premiers, ceux qui ont été trouvés sans péché, ces gens-là, ressusciteront en premier pour aller vers la dormition et le repos. Et qu'ensuite, après cela, ressusciteront ceux qui doivent être jugés dans la dernière résurrection. C'est écrit depuis le principe de la Genèse, dans lequel il est écrit que la consommation de ce siècle aura lieu le sixième jour, c'est-à-dire la sixième millième année. Puis ce sera le septième jour, jour de la dormition universelle, la résurrection universelle, au sujet duquel David dit « C'est là mon repos, le septième jour, et les justes y entreront ». Ce septième jour, c'est le septième millénaire, celui du royaume des justes, dans lequel ils vont s'exercer à l'incorruptibilité. Après qu'aura été renouvelée la création, pour ceux qui ont été gardés dans ce but. On va tout lire, mais je lis encore quelques petits passages que j'avais notés, puisqu'il s'agit d'accueillir ce que nous devons dire. Ce n'est pas une obligation. Depuis le Concile, c'est vrai, Vatican II, ce n'est pas obligation, parce que désormais, après le Concile, plus rien n'est une obligation. C'est une liberté d'amour. Mais à la fin de chaque messe, on doit prier. La prière, comme le pape l'a demandé récemment, en 2020, on doit célébrer la prière à Saint-Michel Archange pour que, et qu'il chasse le démon, Satan, dans l'enfer. Après chaque messe, on doit dire ça. C'est une demande qui a été faite depuis 3 ans. Mais Concile l'avait déjà fait. Mais il avait dit simplement que ce n'est plus obligatoire sous peine de péché mortel. Parce qu'on ne fait pas ça par crainte, on fait ça par liberté totale. Mais également le prologue de Saint-Jean. Parce que dans le prologue de Saint-Jean, il est dit qu'on doit accueillir. Et donc c'est l'évangile d'aujourd'hui, on doit accueillir. Celui qui m'accueille, c'est Dieu qui l'accueille, parce que je suis. Celui qui accueille, m'accueille moi, c'est moi qui l'accueille, c'est Dieu qui l'accueille. Et s'il accueille Dieu, il reçoit non seulement la ressemblance, mais il reçoit ce que je suis. Il est engendré de Dieu lui-même, comme moi je suis l'unique engendré de Dieu. Et il accueille celui qui m'a envoyé. À la fin de chaque messe, si vous allez à des messes à partir de ces temps-ci et que cela ne se fait pas, restez dans l'église et mettez-vous à genoux pour célébrer l'accueil du prologue de l'évangile de saint Jean. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous lire ça, ce que dit Irénée, saint Irénée, dans le même chapitre, dans le même livre, pardon, chapitre 18, c'est 17e, pardon, chapitre. J'aime beaucoup chapitre 17. 6, 6, 6, 18, 18, c'est le contenant, c'est 17. Toute la force qu'il y a au temps de l'Antéchrist, elle est dans le prologue. Toute la force invincible, cachée. Tout cela, Jean, je lis maintenant le Verbe est venu dans ce qui lui est dit, dans ce qui lui appartient à lui. Il est venu chez nous, il est venu dans ce qui lui appartient à lui. Tout cela, Jean, le disciple du Seigneur, l'atteste lorsqu'il dit dans le principe était le Verbe. Et le Verbe était face à face avec Dieu, et le Verbe était Dieu lui-même. Il était dans le principe auprès de Dieu, dans le face à face de Dieu, toute chose. Apud Deum en latin, c'est faire attention, traduction même ici en français. Apud Deum, dans le face à face de Dieu, toutes choses ont été faites par son entremise. Et sans lui, rien n'a été créé. Saint Jean, le disciple du Seigneur, atteste encore au sujet de ce même Verbe de Dieu. Il était dans le monde, et le monde a été créé par lui. Mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu dans ce qui est son propre domaine, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il l'a donné à ceux qui croient en son nom. Et René continue, il dit encore, pour signifier son économie, c'est-à-dire l'œuvre que le Verbe de Dieu fait dans le temps de la terre, à l'Église, il dit encore, pour signifier son économie humaine, et le Verbe est devenu chair, et il a établi sa demeure parmi nous. Et puis il ajoute, et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle qu'un fils unique tient de son Père, pleine de grâce et de vérité. Par ces mots, à ceux qui veulent entendre, c'est-à-dire qui ont des oreilles, il fait connaître de la façon la plus claire qu'il n'y a qu'un seul Dieu Père qui est au-dessus de toutes choses, c'est-à-dire un seul Verbe de Dieu qui est à travers toutes choses et par l'entremise de qui toutes choses ont été créées, et que ce monde est son propre domaine, et qu'il lui appartient puisqu'il a été fait par son entremise, selon la volonté du Père, et non par l'entremise d'anges, ni par celle d'une apostasie, ou d'une déchéance, et d'une ignorance, qui n'a pas été faite non plus par l'entremise d'une puissance dénommée Prunikos, et que certains appellent aussi la mère divine, ni par celle de quelque autre démiurge ignorant le Père, qui est le Père. Car l'auteur du monde, c'est en toute vérité le Verbe de Dieu. C'est lui notre Seigneur. C'est lui l'auteur du monde. Lui-même, dans les derniers temps où nous sommes, s'est fait homme, alors qu'il était déjà dans le monde. Il était déjà présent dans le monde et qu'au plan invisible, il soutenait toute chose créée et se trouvait enfoncé dans la création tout entière en tant que Verbe de Dieu, gouvernant et disposant toute chose. Il était donc déjà dans le monde, mais dans les derniers temps, il s'est fait homme, lui qui était déjà dans le monde. Voilà pourquoi il est venu de façon visible dans le domaine qui lui appartient personnellement. Et il s'est fait chair. Et il a été suspendu au bois, afin de récapituler toute chose à l'intérieur de lui-même. Mais les siens, comme dit Saint Jean, disciple du Seigneur, l'atteste, les siens ne l'ont pas accueilli. Les siens, c'est-à-dire les hommes, son propre domaine qu'il crée. Ainsi que Moïse l'avait annoncé en disant au peuple, « Ta vie, Seigneur, sera suspendue sous tes yeux. Ta vie éternelle, ta vie véritable, ta vie sera suspendue sous tes yeux. Et toi, tu ne croiras pas en ta vie, alors qu'elle sera sous tes yeux. » Deutéronome, chapitre 28, verset 66. Et c'est de cette manière que ceux qui ne l'ont pas accueilli, n'ont pas accueilli la vie elle-même. Ta vie sera suspendue sous tes yeux. Il s'est fait chair, il a été suspendu au bois. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, là, il a donné à jamais le pouvoir de devenir enfant de Dieu, engendré de Dieu, comme Jean l'atteste en continuant. Parce que c'est lui qui a pouvoir sur toute chose, de par le Père, parce que le Verbe de Dieu est Verbe de Dieu et il est véritablement homme quand il a pris chair. Aux êtres invisibles d'une part, il commande d'une manière spirituelle et il leur donne ses lois à tous selon un mode intelligible afin que chacun d'entre eux demeure à son rang. Et sur les êtres visibles et humains, d'autre part, il règne aussi d'une manière manifeste et visible parce qu'il fait venir sur tous le juste jugement qu'ils méritent. Cette venue visible du Verbe, David l'avait annoncé lorsqu'il disait « Notre Dieu viendra d'une manière visible et manifeste ». Oui, notre Dieu viendra et il ne se taira pas. Il avait ensuite annoncé le jugement qu'il amènerait en disant, psaume 49, un feu dévorant sera devant lui et autour de lui se déchaînera la tempête. Il appellera les cieux en haut ainsi que la terre pour discerner son peuple dans dans un jugement. Oui, c'est l'évangile aujourd'hui de l'accueil. De l'accueil. On accueille en Jésus, Dieu vivant. Et nous sommes à son domaine. Alors j'ai encore quelques petits passages. Un petit passage à lire. Je prends le chapitre 6, encore un peu avant, au deuxième paragraphe, où saint Irénée prend les trois grands moments du royaume de Dieu sur la terre qui concernent le septième millénaire. Mais avant, il y a le sixième millénaire où nous sommes pour nous y préparer. Et il dit ceci, le Saint des Saints. Si quelqu'un détruit le Saint des Saints et le temple de Dieu, le domaine propre à la création de Dieu, le Père, dans la chair, Dieu le détruira. Parce que le temple de Dieu est saint. Et ce temple de Dieu, c'est ce que vous êtes vous-même. De toute évidence, il appelle le corps un temple dans lequel habite l'Esprit Saint. C'est notre corps, parce que en lui habite l'Esprit Saint dans ce sixième millénaire. Le Seigneur disait lui aussi à propos du corps, détruisez ce temple-là, et en trois jours, je le relèverai. Or, l'Écriture le note, Saint Jean chapitre 2, verset 21, il parlait en cela de son corps à lui, qui est le nôtre. De plus, l'apôtre sait que nos corps sont non seulement le temple, mais les membres indissolubles du Christ. Car il dit aux Corinthiens, ne savez pas que vos corps sont les membres de Christ? Je lis ce passage à cause de l'épître que nous avons aujourd'hui dimanche. Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ce n'est pas de quelque homme éthérique ou pneumatique, purement spirituel et non incarné qu'il dit cela. Parce que cet homme-là ne pourrait pas s'unir à une courtisane, une prostituée. Mais c'est bien notre propre corps, bien réel. Autrement dit, notre chair bien réelle qu'il parle. Nous qui avons été baptisés dans le Christ, nous sommes morts au péché avec lui. Le corps persévère-t-il dans la sainteté et la pureté? Alors, il est membre de Christ. Et cet homme-là s'unit-il au contraire à une courtisane? S'il s'unit à une courtisane, il devient le membre de cette courtisane. Et voilà pourquoi l'apôtre dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dès lors, prétendre que le temple de Dieu, dans lequel habite l'Esprit Saint du Père, et les membres du Christ, n'ont point part au salut, mais vont à la perdition. Ceux qui prétendent donc que le temple, le corps, la chair, le cœur, n'ont pas part au salut, à la résurrection de cette terre. Mais ils vont à la mort pour toujours. Le corps, c'est fini. Comment ne serait-ce pas cela le comble du blasphème? Oui, la chair ressuscitera incorruptible. Glorieuse, spirituelle, semée corps psychique, elle ressuscitera corps spirituel, sans aucun doute possible. Oui, nous en avons reçu le germe. Et si cela se réalise non par le rejet de la chair, mais par la communion de l'Esprit Saint, ce à quoi l'Esprit Saint écrivait n'était pas des êtres désincarnés, mais bien des gens qui avaient reçu l'Esprit de Dieu et en qui nous crions Abba Père. Donc si donc, pour avoir reçu ce germe, ces arts, ces prémices, nous crions Abba Père dans l'âme, dans l'esprit, mais aussi dans la chair, qu'est-ce que ce sera lorsque, appartenant à la première résurrection, nous le verrons face à face, dans la dernière résurrection, lorsque tous les membres à flot débordant, lorsque tous nos membres du corps, à flot débordant, les yeux, les oreilles, les nerfs, le cœur, la chair, les organes, tout l'organisme, lorsque tous les membres à flot débordant feront jaillir un hymne d'exultation glorifiant celui qui les aura ressuscités d'entre les morts, et gratifié de la vie véritable du royaume et de l'éternelle vie. Que ne fera alors pas la grâce entière de l'Esprit Saint une fois donnée aux hommes par Dieu? Elle nous rendra semblables à lui et accomplira la volonté du Père, parce qu'elle parfera l'homme. Ça, c'est très magnifique, ça. Elle rendra parfaite à jamais. Elle parfera. Voilà un verbe qu'on ne trouve que dans saint Irénée. Elle parfera l'homme à l'image et ressemblance de Dieu. Parce que des esprits sans corps ne seront jamais des hommes spirituels. Mais c'est notre substance, c'est-à-dire le composé d'âme et de chair, qui en recevant l'Esprit de Dieu constitue l'homme véritable, l'homme spirituel. Voilà pourquoi ceux qui repoussent le conseil de l'Esprit Saint pour s'asservir au plaisir de la chair sont dans le blasphème et l'abomination parfaite. Vivent contrairement à la raison, à l'homme spirituel et se livrer sans frein à leur convoitise, ceux-là qui n'ont aucune inspiration du divin Esprit Saint, ou qui ne disent pas « Bah Père, dans la chair et dans l'esprit », vivent à la façon des porcs et des chiens. Et l'apôtre les nomme à bon droit charnels, parce qu'ils n'ont pas de sentiment que pour les choses charnelles. Déjà les prophètes, pour ce même motif, les avaient comparés à des animaux dépourvus d'esprit. Ainsi, à cause de leur conduite contraire à la raison, les prophètes disaient « Ils sont devenus des étalons en rute, chacun d'eux hennissant vers la femme de son prochain. » Et encore, ils disaient « L'homme, alors qu'il était comblé d'honneur, s'est rendu semblable aux bêtes de somme. » Par sa propre faute, en effet, l'homme se rend semblable aux bêtes de somme, dès lors qu'il ambitionne une vie contraire à l'esprit dans sa chair et dans son âme. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons coutume de dire pareil à des bêtes et semblables à des brutes, les hommes de ce genre. Voilà pourquoi l'Épître aux Romains dit aujourd'hui, nous qui sommes baptisés, c'est dans la mort du Christ, que nous sommes inscrits, transportés, et il n'y a plus de péché en nous. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant.